De Dieu, on lit deux textes dans l'épître de Paul aux Romains, le premier, Romains chapitre 1er, verset 14. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 14. Le texte va certainement s'afficher pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et puis dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1er, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1er, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. J'ai choisi ces deux textes bien connus que j'apprécie particulièrement. D'abord, ce texte de l'introduction de l'épître de Paul aux Romains. Si on avait lu toute l'introduction, on verrait que le mot « évangile » revient 5 fois. Paul nous dit son désir d'annoncer l'évangile et il nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puis, dans ce passage de Corinthiens, Paul décrit succinctement ce qu'est l'Évangile et l'importance de le recevoir. L'Évangile signifie « bonne nouvelle », nous le savons. Il y a quelques années, j'étais à l'inauguration d'un parking situé à côté de l'église où nous étions. Le maire était là, il a commencé son discours et il a dit « j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer ». Alors ça m'a interpellé là, l'expression. Alors ces bonnes nouvelles à lui, c'était l'implantation de nouvelles entreprises dans la région qui allaient créer un peu plus de rentrée d'argent pour la ville, un peu d'emploi. C'était une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûr que les personnes présentes l'aient reçue comme une bonne nouvelle. S'il avait dit qu'il supprimait le parking payant, je pense qu'on l'aurait mieux perçu comme une bonne nouvelle. Mais voilà, mais c'est relatif. Parfois la météo, la dame va dire « j'ai une bonne nouvelle, le soleil revient », mais je ne suis pas sûr que l'agriculteur pense la même chose. Mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, et une bonne nouvelle pour tous. Personne ne sera déçu. En quelques mots, pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle? Je suis dans mon introduction, même si je prêche quelque chose que j'ai à cœur, et on aime annoncer, parler de l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. La principale, parce que c'est la vie. Parce qu'il est vital, parce qu'il apporte la vie. La Bible dit que nous étions morts spirituellement parlant, séparés de Dieu. Et un jour, Jésus est venu, on a entendu le message, et la vie a jailli dans notre esprit. On est passé de la mort à la vie. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. On l'a su, on l'a reçu dans notre cœur. C'est quelque chose de bon. J'aime bien cette histoire, cet homme qui un jour va entendre l'évangile et il revient et dit « chérie, mais c'est catastrophique, je viens d'apprendre que je suis mauvais, que je suis corrompu. » Il dit « je retourne demain. » Il y retourne le lendemain et dit « mais c'est encore plus catastrophique, je viens de découvrir que je suis condamné et je suis perdu. Il faut que j'y retourne encore. » Le lendemain il revient « j'ai une bonne nouvelle, je suis condamné et perdu mais j'ai la possibilité d'être sauvé. » L'Évangile commence par une mauvaise nouvelle, pour saisir la bonne. Nous étions perdus, et Christ est venu pour nous sauver. Nous étions morts, et Jésus nous a donné la vie. Jésus a rendu le salut possible par sa mort et sa résurrection sur la croix. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'il est puissant. Non seulement il communique la vie éternelle et l'assurance du salut, mais il agit dans tous les domaines de ma vie. Lorsque Jésus était dans la synagogue de Nazareth, il a commencé son ministère en lisant le texte d'Ésaïe. Et il a cité « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » J'aime beaucoup ce texte. Pourquoi ? Parce qu'il nous montre que l'Évangile agit dans tous les domaines. Bien évidemment au niveau de l'esprit, mais il agit sur le plan matériel, dans le sens que Jésus peut nous aider, il pourvoit à nos besoins. Bien évidemment, il agit sur le plan physique, parce que les guérisons viennent attester que Christ est vivant. Sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, à tous les niveaux, la grâce de Dieu peut se manifester. L'Évangile a des effets bénéfiques dans tous les domaines. D'ailleurs, c'est le sens du mot grec, évangile. Il signifie bonne nouvelle dans le sens qu'il fait du bien. Il est bon aussi parce qu'il est abondant. L'Évangile n'apporte pas seulement une quantité de vie ou la vie éternelle, il apporte une qualité de vie ici-bas. J'aime ce texte qui dit que Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. J'aime cette parole aussi du Père qui dira à son Fils quand il revient, « Mais tout ce que j'ai est à toi. » L'Évangile, ce sont les ressources du ciel qui sont mises à notre disposition. Et c'est bon de s'en rappeler et de ne pas vivre au rabais, de vraiment saisir tout ce que Dieu veut nous donner. Il y a quelques années, je priais pour une personne qui était atteinte d'une maladie dégénérative et je ne savais pas trop comment prier. Alors j'ai dit, « Seigneur, accompagne-la. » Je me rappelle, alors que je pensais qu'elle était pas tout, elle captait pas tout, elle m'a dit, « Mais c'est une petite bénédiction que vous demandez là. » Elle avait coincé, j'avais été surpris de sa réaction. Mais l'Évangile, ce n'est pas une petite bénédiction, hein. C'est quelque chose de grand. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle parce qu'il est universel. Paul dit, je me dois aux Juifs, aux Grecs, à tout le monde. C'est pour tous. C'est pour tout le monde. Ça, nous le savons. Et d'ailleurs, le nombre de pays ou de nationalités ou d'ethnies qui peuvent être représentées ce matin le montre bien. Mais c'est vraiment pour tout le monde. Et tout le monde est dans le plan du salut. C'est pas réservé aux meilleurs. C'est pas réservé aux plus forts. C'est réservé à tout le monde. Personne n'est exclu. J'aime ce texte qui dit « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » L'Évangile, c'est une bonne nouvelle aussi parce que c'est actuel, c'est permanent. Parfois, on reçoit une promotion et on vous dit « Voilà, vous avez la possibilité d'avoir une affaire, une offre promotionnelle. » Mais le temps qu'on agit, qu'on y aille, elle est déjà passée. La bonne nouvelle n'était pas si bonne que ça. Mais l'Évangile, c'est quelque chose de permanent. C'est venu il y a 2000 ans, mais c'est toujours d'actualité. Les formes ont changé. Le mode de vie a changé. Mais le problème n'a pas changé. Le problème numéro un, c'est toujours celui du péché. Et la solution que Dieu propose, c'est toujours la même. Le sang de Jésus-Christ lave de tout péché. Et ne le perdons pas de vue. Et finalement, la longévité de l'Évangile constitue une garantie. Et puis l'Évangile, c'est une bonne nouvelle parce qu'il est simple et accessible. Parfois, pour bénéficier d'une aide, d'un service, on vous dit, alors il faut que vous ayez tel papier, vous allez dans tel bureau. Dans tel bureau, on vous dit, mais il faut que vous ayez aussi tel document. Alors vous allez chercher tel document, on vous dit, mais manque ce tampon-là. On connaît ce genre de truc, des fois, pour nous dissuader. Au final, certains renoncent à obtenir le service. Mais l'Évangile, c'est simple. Son contenu est simple. C'est pour ça que j'ai lu ce texte de 1 Corinthiens 15 qui nous dit « Christ, il est mort, il est ressuscité ». Et le contenu de l'Évangile est simple. Et la manière pour le saisir est simple. C'est la foi en Jésus. C'est quelque chose de simple et heureusement, parce que si c'était compliqué, ça ne serait pas une bonne nouvelle. C'est accessible à tous. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. La Bible parle du don gratuit de Dieu, comme une insistance pour mettre en évidence la gratuité. Dieu sauve les gens gratuitement. Alors gratuit, ça ne veut pas dire sans valeur. Le salut, il est gratuit pour nous, mais il est d'un coût immense. Un coût qui a fait que Jésus, sur la croix, il a été séparé de Dieu. Il dira, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le prix du salut, il est élevé. Mais pour nous, il est gratuit. De toute façon, rappelons-nous toujours qu'il n'y a rien de gratuit. Quand c'est gratuit pour nous, c'est que quelqu'un d'autre a payé. Et le salut, il est gratuit parce que Jésus l'a accompli. Sur la croix, il s'est écrié, « Tout est accompli, tétélestai !» Ça veut dire, « Tout est payé !» C'est ça que ça veut dire. Oui, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et je voudrais dire à quelqu'un, tu as besoin de saisir ce que Jésus a fait sur la croix pour toi. Maintenant que j'ai dit ça, je voudrais simplement mettre quatre « si ». L'Évangile est une bonne nouvelle, si. Je ne vais pas déformer le message, mais je voudrais dire d'abord ceci. L'Évangile est une bonne nouvelle si elle est partagée. Eh oui. Je me rappelle, cette jeune femme, c'était sur ma conche, si je me rappelle bien, c'était un jour de la fête de Noël des enfants. Elle avait entendu le message et elle est venue à la fin, elle était bouleversée. Elle me disait, et je vois encore, elle était émue, mais comment ? Pourquoi ? Pourquoi on ne sait pas ? Je me rappelle aussi de ma réponse. Je crois que les gens ne le savent pas parce qu'ils ne veulent pas l'entendre, ils sont occupés à toutes sortes d'autres choses. Mais avec le temps, ma réponse, je ne l'ai pas trouvée très bonne, pas très honnête. Parce que j'aurais pu répondre, parce que l'Église ne remplit pas toujours sa mission. Parce que l'Église a reçu un mandat d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, de parler autour. Et des fois, souvent, parfois, je ne sais pas comment, mais on ne le fait pas toujours. On ne remplit pas notre mission. Et ça m'a travaillé, je crois que c'est même pour ça que je m'en suis souvenu et que je ne l'ai jamais oublié. Dans Romains chapitre 10, Paul pose le problème d'une manière très mathématique. Il dit ceci, Romains chapitre 10, verset 12, « Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous sont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, « Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. » Mais comment feront-ils en lui s'ils n'ont pas cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu ? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer ? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés ? Aussi est-il écrit dans l'Écriture qu'ils sont beaux, les pieds ou les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Et Isaïe demandait déjà, « Seigneur, qui a cru à notre message ?» Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. Je viens de lire ce texte que nous connaissons dans la version Semeur. Je reformule en plus condensé ce que Paul a dit. Pour être sauvé, il faut se tourner vers Jésus-Christ dans la foi. Mais pour pouvoir se tourner vers Jésus-Christ dans la foi, il faut avoir entendu la bonne nouvelle. Et pour avoir entendu la bonne nouvelle, eh ben, il faut des gens qui l'annoncent. Voilà comment il pose son problème. C'est d'une évidence incroyable, évidente, mais c'est important. La Bible nous invite à être des témoins de Jésus-Christ. Nous avons une bonne nouvelle à partager. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui n'en sont pas. Mais nous, on a la bonne nouvelle, c'est que Jésus pardonne les péchés. Ne nous laissons pas intimider, impressionner. N'ayons point honte de l'Évangile pour reprendre ce que nous avons lu. Mais c'est nous qui avons le message. Le message, c'est que Jésus pardonne les péchés. C'est qu'il peut changer les vies, qu'il peut délivrer de la dépression, qu'il peut sortir C'est là le message. N'ayons point honte de ce message. Nous connaissons la parabole des talents. Le maître s'en va, il donne 5 talents à l'un, 2 à un autre et 1 au troisième. Et puis il s'en va pour un long voyage, il revient. Les 2 premiers ont fait fructifier, mais le dernier, qui n'a reçu qu'un talent, il l'a enterré. Un talent, ça évoque quoi ? Pour moi, ça évoque, s'il n'y a qu'un talent, c'est celui du salut. C'est le bon dépôt que Dieu nous a donné. La Bible nous dit, garde le bon dépôt qui est en toi, ce dépôt du salut. Et l'une des fautes de cet ouvrier, c'est qu'il a enterré son talent. Nous ne devons pas enterrer notre salut, mais nous devons le partager. Nous devons partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Refusons d'aller au ciel tout seul. Rappelons-nous que la Bible ne parle pas de plan B. Hein. La Bible nous dit qu'un seul moyen, et elle nous dit, après elle ne dit pas grand-chose sur ceux qui n'ont pas Christ, mais elle dit qu'ils sont perdus. Alors on ne peut pas parler de cette manière-là, d'une manière absolue. Mais la Bible montre qu'il n'y a clairement pas de plan B. Alors nous, on veut proposer le plan A, le plan du salut. Que le Seigneur nous aide. L'Évangile est une bonne nouvelle si il est prêché à temps. Récemment, je me disais, à ma honte, je pensais à une personne et je me disais, il faut que je retourne la voir. Je l'avais vue, j'avais commencé à parler du Seigneur. Personne n'était pas très intéressé, il me fallait insister. Et je dis, il faudra que j'y retourne. Et puis, il est mort. Et là, on se sent coupable, on ne se sent pas à l'auteur. J'ai eu la possibilité de pouvoir parler aux obsèques. J'ai annoncé l'Évangile à la famille. J'ai annoncé l'Évangile aux proches. Mais lui, il ne l'a pas entendu. Trop tard. Je ne sais pas ce qu'il en est pour son âme, mais lui, c'est trop tard. Il y a un texte particulier dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 19. Ceux qui lisent la Bible l'ont lu, ont dû même bugger dessus. Ce texte nous dit que Christ est allé prêcher aux esprits en prison, à ceux qui étaient incrédules du temps de Noé. Je ne sais pas si vous l'avez repéré, ce texte, il est bizarre. Il y a même un autre texte qui dit qu'il est allé annoncer l'Évangile aux morts. Voilà des textes qui posent des difficultés. Il y a plusieurs manières de les expliquer, plusieurs possibilités de le comprendre. Ce qui est certain, c'est qu'à aucun moment, la Bible nous dit qu'une fois qu'on est mort, il y a encore la possibilité d'être sauvé. Ça, vous riez, ce n'est pas possible. Quand on est mort, on est mort. Il n'y a plus de possibilité de salut. C'est Dieu vivant. Ce sont, comme dira Ézéchias, les vivants qui te louent. Ce sont les vivants qui peuvent croire en toi. Mais une fois qu'on est mort, on ne peut plus rien. Et nous, de notre côté, on ne peut rien pour ceux qui sont morts. La prière pour les morts ne sert à rien si ce n'est ouvrir au monde des ténèbres. C'est tout. L'interprétation que j'ai choisie par rapport à ce texte est celle-ci, c'est que Jésus-Christ, entre sa mort et sa résurrection, il est allé dans le séjour des morts. Non pas dans le but de sauver ceux qui étaient déjà morts, mais dans le but de proclamer sa victoire, de signifier sa victoire, de faire savoir dans le séjour des morts ce qui s'est passé sur la terre, que la croix a été dressée. Cette proclamation n'a pas eu pour effet de sauver ceux qui étaient déjà perdus, elle a plutôt eu pour effet de confirmer l'état de perdition de ceux qui étaient déjà perdus. Il faut le comprendre comme ça. Ça veut dire que c'était trop tard pour entendre cette bonne nouvelle. Ce sont les vivants qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Qu'on n'ait pas de regrets. Des fois de dire, j'aurais dû parler du Seigneur et je ne l'ai pas fait. Il y a des textes forts, je pense à dans Ézéchiel 18 ou Ézéchiel 33. Hein, je crois que c'est dans Ézéchiel 33 quand tu lui dis, si le méchant meurt et que tu ne lui as pas parlé. Alors c'est très fort les paroles de Dieu, mais c'est toi qui seras responsable. Je ne sais pas à quel niveau on est responsable dans le salut de mon prochain, mais nous avons une responsabilité quand même. Ça nous échappe parce qu'il y a la part de Dieu. Il y a la part individuelle et il y a la part du témoin. Et nous, nous sommes témoins et nous devons parler de Jésus. Et surtout pas nous laisser arrêter. On veut... L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. S'il est entendu, attends. Ne le perdons pas de vue, frères et sœurs. On a besoin de parler de Jésus. Même si notre message nous échappe. Même si on a du mal des fois à l'expliquer, dire Jésus pardonne les péchés, de placer devant, c'est... Après, on a du mal à un moment donné à... Mais c'est de la dynamite. C'est de la vie qui se répand. Et nous, on veut faire connaître notre message. Et puis le Saint-Esprit peut agir et convaincre les cœurs. Révéler Jésus. Troisièmement, l'Évangile. Il est une bonne nouvelle s'il n'est pas altéré. Vous avez dans le Nouveau Testament pas mal d'expressions. La Bible parle de Bible ou de paroles falsifiées, voire frelatées. La Bible parle d'évangiles altérés, de paroles altérées. Il y a quelques années, on nous avait offert de belles cerises. Elles étaient grosses. On avait des sacs. Quand on connaît le prix des cerises, on n'avait pas de cerisier à l'époque. C'était une bonne nouvelle. Sauf que quand on les a ouverts, il y avait au moins deux verres par cerise. La bonne nouvelle n'était plus une bonne nouvelle. Et toutes les cerises, nous, c'était fini, on ne les touchait plus. Hein. Je ne suis pas certain s'ils les auraient récupérées, mais nous... Mais à plusieurs reprises dans l'épître de Paul aux Galates, il est question d'évangile altéré, même d'un... À un moment donné, Paul parle d'un autre évangile. Dans le sens, non pas dans le sens qu'il y ait plusieurs versions de l'évangile et chacun prend la sienne, mais dans le sens qu'il peut y avoir un évangile qui est déformé, altéré, dénaturé, et qui finalement, au final, n'est plus l'évangile, mais seulement une contrefaçon. Vous savez, en France, je pense que ça doit se faire aussi ailleurs, même si c'est même au niveau de l'Europe au moins, mais pour protéger un produit du terroir, on a mis les appellations d'origine contrôlée, les AOC. Hein, si vous voulez avoir le nom Reblochon, il faut le faire en Haute-Savoie, dans la région, et puis fabriquer son Reblochon selon certains critères. Si j'essaye de faire un truc qui ressemble sans doré, je ne peux pas appeler mon fromage Reblochon. Et ben, c'est un peu la même chose avec l'Évangile. Il y a des règles. Si on l'ampute, si on l'altère, si on met des choses qu'il ne faut pas, à un moment donné, ce n'est plus l'Évangile. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. » L'Évangile, c'est une bonne nouvelle avec le message de la croix. Or, on sait que la prédication de la croix, c'est une folie pour certains. C'est un scandale pour d'autres. Ça heurte, c'est difficile à digérer. Le message de la repentance, ça passe pas toujours. Et si on pouvait prendre que la foi et mettre de côté la repentance, certains prendraient. Mais on peut pas. Prêcher la divinité de Jésus, c'est indispensable. Jésus peut être mon sauveur que si il est Dieu. Autrement, ça marche pas. Si c'est un archange, un ange, ou ce que vous voulez, ça ne marche plus. Je reprends le texte que j'ai dit tout à l'heure. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous annonçais, que vous avez reçu, auquel vous êtes attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans le terme où je vous ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Si l'évangile est dénaturé, il cesse d'être une bonne nouvelle. La Bible parle aussi d'un autre Jésus. J'avais trouvé ce document que je me suis un petit peu adapté il y a quelques années. Je vous le cite. Il y a le Jésus de l'Évangile, et puis il y a des fois l'autre Jésus. Je ne vais pas dire le Jésus moderne, mais un Jésus en tous les cas qui ne correspond pas à celui que je connais. Le Jésus de l'Évangile, c'est Dieu qui s'est fait homme. L'autre Jésus, c'est un homme qui devint Dieu. Le Jésus de l'Évangile, il avertit au sujet du péché, du jugement et de l'enfer. Mais l'autre Jésus, il ne dit jamais rien de négatif, il ne fait qu'encourager. Le Jésus de l'Évangile, il ordonne de se repentir de ses péchés. Mais l'autre Jésus, il zappe la repentance et la présente comme une option. Le Jésus de l'Évangile, il donne le salut, l'espérance, la paix et la joie. Mais l'autre Jésus, il donne la santé, la richesse et le bien-être. Le Jésus de l'Évangile, il est haï et méprisé par le monde. Mais l'autre Jésus, il est aimé et accepté par le monde. Le Jésus de l'Évangile, il est le péché. Et il expose la vérité à propos du péché. Mais l'autre Jésus, il tolère le péché et ne vous reproche jamais vos péchés. Le Jésus de l'Évangile, il prêche la justice de Dieu. L'autre Jésus, il prêche que l'amour de Dieu et la tolérance. Le Jésus de l'Évangile, il accomplit la volonté de Dieu. L'autre Jésus, il accomplit vos rêves. Le Jésus de l'Évangile, il exige que nos émotions, nos expériences et nos points de vue soient conformes à la saine doctrine. Mais l'autre Jésus, il place nos émotions, nos expériences et nos points de vue au-dessus de la saine doctrine. Le Jésus de l'Évangile, il nous demande de savoir, renoncer et de le servir. Mais l'autre Jésus, il ne nous demande pas de renoncer à pas grand-chose. Et même c'est lui qui est là pour nous servir. Vous voyez, là j'essaie de faire ressortir un contraste. Il faut bien se situer quand même. Rappelons-nous qu'un évangile dénaturé, falsifié, ce n'est plus l'évangile. Et c'est dans ce sens-là où il faut être un petit peu sur nos gardes, par rapport à l'ivraie, par rapport au bon blé, par exemple. Et puis, un dernier point, tout simple. L'Évangile, il est une bonne nouvelle s'il est reçu. Eh oui, eh oui. Je ne dis pas s'il est écouté. Je ne dis même pas s'il est apprécié. Vous savez, des fois, des personnes viennent dans nos églises. C'est sympa dans vos églises. C'est bien ce que vous dites. Mais ça, ça ne sauve pas. L'Évangile ne peut pas se limiter à une émotion. Mais il doit être reçu. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par reçu ? Je reviens sur Romains chapitre 10, mais je vais un petit peu avant. Dans Romains chapitre 10, verset 9, il y a ce texte qui dit « Si tu reconnais publiquement de la bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et on parvient au salut. » Ce texte nous permet de comprendre ce que ça signifie de recevoir l'Évangile. Ça signifie croire avec son cœur que Christ est Seigneur, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour moi. Mais ça veut dire aussi confesser, ça veut dire prendre position publiquement. Il y a une dimension intérieure, mais il y a aussi une position, un positionnement extérieur. Et je tiens à souligner ici quelque chose d'important. C'est pas si tu crois ou tu confesses, c'est si tu crois et tu confesses. C'est très important cela. Les deux sont indispensables. Vous avez des personnes qui ont envie de croire, mais elles n'ont pas envie de s'engager. Ça bloquera. À un moment donné, il faut se positionner, il faut ouvrir son cœur. Il faut se positionner. Quand j'étais en train de me convertir, j'ai été tombé sur l'histoire d'un jeune homme qui avait entendu l'Évangile tout petit. Et il repoussait toujours sa décision. Quand il est enfant, plus tard. Quand il est ado et jeune, plus tard. Quand il se mariait, il n'a plus le temps. Et quand il est vieux, c'est trop tard. Et ça m'avait interpellé, ça m'avait conforté, poussé à me donner à Jésus. Je termine en revenant sur mon texte de départ. Prenons exemple sur l'apôtre Paul. Il dit d'abord, je me dois. Je me dois, pas Dieu, je dois. Il se fait une règle personnelle, ça ne veut pas dire qu'il l'impose aux autres. Mais quand même, il dit, je me dois. Il y a en lui, je ne dirais pas l'obligation, mais la nécessité d'annoncer l'Évangile. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Alors l'apôtre Paul, il avait un mandat, il avait une vocation particulière. Mais nous savons que nous sommes tous appelés à être des témoins de Jésus-Christ et à dire ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes comme ce possédé de Gadara qui a été délivré et Jésus l'a dit, va dire tout ce que je t'ai fait. Et nous, on a des choses à dire, que Jésus a changé nos vies, qu'il a donné du sens à notre vie, qu'il a pardonné nos péchés. On ne sait peut-être pas toujours expliquer, justification, il y a des termes qu'on n'a pas toute la connaissance de la doctrine complète, mais on peut dire ce que Jésus a fait pour nous. Paul dit aussi, j'ai un vif désir. Il y a en lui de l'envie, de la passion, de l'enthousiasme, malgré les coups, les difficultés, les chocs, l'adversité. Il y a une passion pour annoncer l'Évangile. Non seulement il y a le sens de la responsabilité, mais il y a ce désir, ce feu. Que le Seigneur nous anime de feu, nous embrase notre cœur pour parler de lui. Et c'est vrai que c'est bon. Lorsqu'on parle de Jésus, il y a quelqu'un qui reçoit, qui saisit. Je pense à un témoignage que lorsque j'avais fait un camp de jeunes il y a quelques années sur Gap, et il y avait un tournoi de foot en même temps, et il y avait évangélisation l'après-midi. Et la première fois, j'étais parti au foot. Et je chantais que le Seigneur me dit, tu vas à l'évangélisation. Et dans l'après-midi, en jouant au foot, oh, un coup de travers, ou je ne sais pas, enfin une entorse, je ne peux plus jouer. Donc le lendemain, je chante là, encore le matin, le Seigneur me travaille. Le lendemain, ce coup-ci, c'était l'évangélisation. Et j'oublie, je dis, Seigneur, j'y vais, tout mon cœur. J'y suis allé, mais quelle joie. Quand on est allé dans les rues de Gap, on est allé parler, j'ai récupéré deux personnes. On les a emmenées. Et la personne dont on l'a amené, elle pleurait sur ses péchés pendant la réunion. Bouleversé, il est allé à l'imposition des mains, il a couru dans... Quelle joie dans mon cœur et quel encouragement. Alors, pourtant, je crois que j'avais simplement dit, viens, je t'invite, hein. Je n'avais pas pu. Mais quelle joie. Mais ça m'a montré, le Seigneur, il voulait me montrer surtout qu'il faut obéir. Et en plus, y mettre de la passion. Et puis, il dit, j'ai point honte. Parce que il faut du courage. Un frère me disait, chaque fois que je vais dans la rue, je sens comme une appréhension. Alors je l'ai rassuré en lui disant moi aussi. Chaque fois qu'on va parler de Jésus, il y a un combat spirituel. Il y a une opposition, il y a une adversité. Et c'est jamais facile. Ça provoque souvent des réactions. Mais ça demande du courage. Mais le Seigneur, il nous aide. Il y a ce texte que nous connaissons bien, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Souffre avec moi pour l'Évangile. Que le Seigneur. Là, je termine en disant, pour nous qui sommes sauvés, annonçons la bonne nouvelle autour de nous. Jésus sauve sans le déformer, avec passion, avec courage. Attends, n'attendons pas toujours trop. Des fois, on est trop sage. On verra plus tard. Ah, c'est vrai que pas. Des fois, il faut savoir attendre. Mais des fois aussi, il faut savoir y aller. Et là, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et puis, pour vous qui ne l'avez pas encore accepté, donnez votre cœur à Jésus. Christ, il a donné sa vie sur la croix. Il est mort sur la croix pour que vous puissiez être sauvés et pardonnés de vos péchés. Cessez d'écouter cet évangile comme une belle musique, c'est sympa. À un moment donné, il faut se décider. Il faut avancer. Il faut ouvrir son cœur à Jésus. Recevez Jésus. On prie le Seigneur. Seigneur, c'est bon d'annoncer l'évangile. Et c'est bon de proclamer ce que Jésus a fait. Seigneur, la croix, elle a été dressée. La victoire de Jésus a remporté. Ça a l'apparence d'une défaite. Mais c'est une éclatante victoire. Alléluia. Satan a été vaincu. Le péché a été vaincu. La mort a été vaincue. C'est la vie qui jaillit. Voilà notre message. Et je prie pour que quelqu'un ce matin puisse recevoir l'évangile dans son cœur et expérimenter le salut dans son cœur, qu'il passe de la mort à la vie. Je veux prier pour tous ceux qui l'ont expérimenté, qui savent, ils t'appartiennent. Et je veux prier, Seigneur, pour qu'on soit vaillants, zélés, passionnés dans l'annonce de l'Évangile. On ne veut pas laisser cela à l'affaire de quelques spécialistes, mais on veut tous prendre notre part au témoignage et aussi à la moisson qui va avec. Seigneur, merci de nous aider à parler de Jésus avec simplicité, avec inspiration, avec la grâce de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. On reste dans la prière.